matin, 13h, 14h, les carnets du monde. François Claus.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les carnets du monde, 8e chapitre déjà du monde sous le joug de la pandémie. Nous partirons à Moscou, le pays où le virus semble aujourd'hui le plus actif sur le continent européen, la Russie où l'on s'interroge sur la réalité des chiffres. Nous irons avec Benoît Vitkine, le correspondant du monde, dans le pays voisin que tout le monde a oublié, la Biélorussie, où le président dictateur Loukachenko semble vouloir nier jusqu'à l'existence du virus quand les pays voisins ferment leurs frontières. Ils furent terrassés par la crise financière en 2008 et en 2011. Ils ont mieux résisté 10 ans plus tard à la crise sanitaire. Comment les petits pays d'Europe, Portugal et Chypre, donnent une leçon aux dominants français, anglais ou espagnols? Après une première semaine de déconfinement plus ou moins chaotique, ce que la France peut apprendre des pays qui ont su gérer l'épidémie, les carnets du monde partiront en Corée du Sud et en Allemagne. Et puis plus fort que les policiers du monde entier, voilà le Covid-19 qui bloque les routes de la drogue ou presque. Reportage au pays de la coca, voilà pour le sommaire. Il ne nous reste plus maintenant qu'à tourner ensemble les pages des carnets du monde.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde. 13h-14h, les carnets du monde. François Claus sur Europe 1.
Et tout de suite, direction Moscou. Moscou, car la Russie est devenue, avec le Royaume-Uni et l'Espagne, l'un des 3 pays les plus touchés par la pandémie sur le continent européen. La Russie, où l'on recense maintenant officiellement 10 000 cas de Covid chaque jour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Moscou. Bonjour, Elena Volochine.
Bonjour, François.
J'évoquais le chiffre de 10 000 nouveaux cas à Moscou et nous irons dans un instant vivre avec vous la réalité des hôpitaux moscovites. Mais question sur ce chiffre, car au-delà des cas, le nombre de morts, lui, en revanche, est très faible, de l'ordre d'1% par rapport au volume des cas, soit 7 fois moins que la moyenne mondiale. Est-ce qu'il y aurait une exception russe ou est-ce qu'il y aurait, Elena, un problème avec les statistiques côté russe ?
Oui, alors la statistique effectivement soulève de nombreuses questions. Petit retour en arrière, au début de l'épidémie, on se souvient que, alors que c'était déjà l'hécatombe en Europe, la Russie semblait comme miraculeusement contournée par le coronavirus au mois de mars, sur fond d'une dizaine de cas seulement à travers le pays, avec des discours toujours plus rassurants de la part des autorités. Les mesures comme la fermeture de la frontière russe extrême-orientale avec la Chine, elles apparaissaient un peu comme une surprécaution très lointaine. Et puis soudain, le coronamètre, hein, si l'on peut dire, s'est affolé. Cela a coïncidé avec la première adresse de Vladimir Poutine à la nation, c'était le 25 mars. Le président russe annonçait une semaine chômée, il conseillait aux Russes de rester chez eux et le surlendemain, comme par hasard, le bilan officiel a bondi avec plus de 1000 cas de contamination en 24 heures et depuis, eh bien, la croissance est exponentielle.
Alors est-ce que ça voudrait dire, Elena, qu'il y a eu une volonté, et c'est le cas de le dire, de masquer le bilan réel?
Alors on a clairement senti ce moment charnière avec la levée de l'omerta lorsque les autorités semblaient avoir compris que si elles ne communiquaient pas finalement, eh bien on allait droit à la catastrophe. Alors maintenant, s'agissait-il de garder secret les chiffres réels ou y avait-il d'autres raisons comme des tests défaillants? C'est difficile de le dire. D'un côté, une censure s'est bien mise en place avec notamment cette loi votée pour punir les fake news sur le coronavirus. Des médecins ont été sanctionnés pour avoir tiré la sonnette d'alarme et des émissions alertant sur la situation réelle dans les médias indépendants ont été supprimées, interdites. Mais d'un autre côté, il y a bien eu aussi des problèmes pour diagnostiquer les cas de Covid. Alors écoutez l'histoire de Pavel, il a été hospitalisé fin mars avec une double pneumonie.
Au total, j'ai passé 4 tests, 3 à l'hôpital et 2 et un seul avant, quand j'ai appelé la première fois les urgences. Dans cet hôpital-là, ils n'ont jamais su que c'était le virus et je l'ai su après parce que en fait, j'ai passé les tests pour voir les anticorps et donc les anticorps sont bien présents, donc du coup, j'étais bien contaminé par le virus.
Alors si on comprend bien Pavel, Elena, il est allé lui-même se faire tester. Et donc, il n'était pas dans la statistique officielle.
Exactement. Et combien d'autres comme lui ne sont pas dans la statistique, on l'ignore. Il faut bien comprendre qu'en Russie, les médecins font le distinguo entre les cas dits cliniquement confirmés, c'est-à-dire ceux qui présentent tous les symptômes, y compris cette radio des poumons très reconnaissable, comme celle de Pavel. Et puis, il y a les cas confirmés par prise de sang et seuls ces derniers sont pris en compte dans la statistique officielle. Donc, il y a bien un problème dans le mode de diagnostic. Du coup, les autorités ont annoncé qu'en janvier, les pneumonies ont augmenté de 37%. Entre janvier aussi et avril de cette année, la mortalité dans la capitale russe est en hausse de 3,7% par rapport à la même période l'an dernier. Du coup, le taux officiel de décès dû au Covid, eh bien, il est étonnamment bas et il soulève de nombreuses questions. Alors, les quotidiens Financial Times et New York Times ont estimé que ce taux, en réalité, il pourrait être de 70% supérieur à celui officiellement annoncé. Et suite à cela, les autorités russes ont exigé de ces journaux qu'ils retirent leurs publications sous peine de sanctions à l'encontre de leurs journalistes.
Alors ces problèmes de diagnostic et de comptabilité, ils ont évidemment des conséquences directes, Elena, pour la prise en charge des patients.
Oui, et même pour la chaîne de contamination, puisque Pavel, par exemple, traité comme un patient tout à fait ordinaire, du coup, il a contaminé son voisin de lit, qui a ensuite contaminé sa mère, ainsi de suite. Les contaminations intra-hospitalières, c'est vraiment un gros problème, y compris pour le personnel médical. Rien qu'à Moscou, les dizaines d'hôpitaux réquisitionnés en urgence pour soigner les patients du Covid, ils ne sont pas du tout adaptés, ni pour les mettre en quarantaine, ni pour sécuriser le personnel médical. Alors nous avons interrogé de façon anonyme un infirmier bénévole qui travaille dans l'un d'entre eux. Écoutez.
Tout notre bâtiment n'est qu'une vaste zone rouge, sale et infectée. On ne nous donne qu'un costume de protection pour 24 heures. Et comme il n'y a pas de sas de sécurité, toute notre vacation, nous travaillons dans ce costume.
Et depuis cette interview, eh bien cet infirmier, lui-même, il a été contaminé par le Covid.
Et vous l'avez compris, on a légèrement modifié sa voix car il tenait à rester anonyme avec ce témoignage très fort. Dans son quatrième discours à la nation, Elena, depuis le début de l'épidémie, c'était cette semaine, Vladimir Poutine a finalement promis des compensations au personnel soignant.
Oui, très exactement. 750 et 500 euros pour 2 semaines de travail aux médecins qui respectivement soignent et ceux qui ne soignent pas des patients atteints du Covid. 430 et 300 euros pour le personnel administratif en fonction des mêmes critères. En parallèle, les autorités russes construisent des annexes d'hôpitaux et même des hôpitaux entiers. En banlieue de Moscou, par exemple, un nouvel hôpital de 800 lits a déjà partiellement ouvert. Et nous avons interrogé, là aussi de façon anonyme, c'est obligatoire, un médecin qui y travaille. Et selon lui, eh bien, les conditions y sont bien meilleures que dans les hôpitaux traditionnels. Écoutez.
L'hôpital est vraiment très bien équipé. C'est la première fois que je vois des moniteurs de signes vitaux dans les chambres de repos. Les costumes sont à usage unique, la zone propre, la zone sale, les sas et les systèmes de badge entre elles, tout cela fonctionne très bien.
Et ce médecin, il nous a aussi raconté que nombre de ses collègues venaient des régions russes pour travailler dans cet hôpital car les salaires y sont nettement plus élevés qu'en région.
Eh bien justement, Elena, vous l'évoquiez, les régions russes, on parle beaucoup de Moscou, qui est au cœur de l'épidémie, mais dans cet immense pays aux 11 fuseaux horaires, quelle est la situation ailleurs qu'à Moscou?
Alors, on parle de Moscou parce que l'écrasante majorité des nouvelles contaminations quotidiennes, elle a lieu dans la capitale russe. Mais la propagation à travers la Russie est moindre grâce au confinement d'abord et à la fermeture des frontières. Et c'est tant mieux finalement parce qu'en Russie, eh bien, la pandémie a frappé un système de santé déjà grandement éprouvé par une réforme visant à faire des économies. Cette réforme, elle a mené notamment à la fermeture des hôpitaux et des cliniques ruraux, créant d'immenses déserts médicaux dans les vastes espaces russes. En région, les salaires des médecins, ils plafonnent en général à 250 euros par mois et de très nombreux Russes n'ont hélas pas accès déjà en temps normal à des soins adaptés. Alors, on a entendu tout au long de cette crise des histoires dramatiques comme ces cas d'infirmiers forcés à coudre leurs masques, ces démissions et même ces défenestrations de médecins en série qui ressemblaient finalement à des suicides sans qu'on sache vraiment la cause. Mais Vladimir Poutine, il assure que la situation est sous contrôle et que le système de santé du pays, eh bien, il est prêt à faire face à la crise. En tout cas, au vu de l'urgence, on assiste effectivement à un déploiement de moyens sans précédent qu'il faudra évidemment chiffrer le moment venu.
Merci beaucoup, Elena. Je vous propose, Elena, de rester en ligne avec nous quelques minutes car il nous a rejoint dans les carnets du monde. Bonjour, Benoît Vidkine.
Bonjour, François.
Et nous allons partir avec vous vers le pays voisin dont personne ne parle, la Biélorussie, 10 millions d'habitants, frontaliers de l'Ukraine, de la Pologne, de la Lituanie et de la Lettonie. Un pays où le championnat de foot a repris comme si de rien n'était au début de l'épidémie. Un pays où l'on a célébré en grande pompe la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un pays dans lequel le président dictateur Alexandre Loukachenko semble s'amuser à vouloir dénier, Benoît Vidkine, l'existence même du virus.
C'est un peu excessif de dire que son leader Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, considère qu'il n'y a pas d'épidémie. Il multiplie les rodomontades qui ont l'air de soit de blagues, soit de déclarations bravaches sur le thème au début, effectivement, il n'y a pas d'épidémie, tout ça n'est qu'une hystérie. Puis sur le thème, il n'y a rien de mieux pour lutter contre ça que, alors, au choix, hein, faites votre marché, mais la vodka, conduire un tracteur, jouer au hockey sur glace. Mais personne ne l'a pris au sérieux, c'est pas non plus fait pour être pris au sérieux, parce que pendant ce temps-là, le pays quand même conduit des tests. Et on ne cache pas qu'il y a une épidémie comme partout ailleurs dans le monde. C'est un pays où l'espace de l'information est assez fermé, mais ce serait impossible de faire croire ça à la population. Donc Loukachenko, en revanche, là où il se différencie de l'intégralité de ses voisins, c'est qu'aucune mesure de quarantaine n'a été prise. Les rassemblements publics ont été limités, et encore pas totalement, mais les écoles sont formellement restées ouvertes, les entreprises aussi, et il n'y a eu aucun appel à rester chez soi.
Et ça veut dire que c'est la population qui a elle-même réagi, le pays réel, pour se protéger. J'imagine que du côté des pays voisins que je citais, il y a une forme d'inquiétude, car frontière ou pas, le virus se diffuse.
Alors les frontières sont fermées, même la Russie, qui est pourtant l'allié proche, et qui a un espace ouvert avec la Biélorussie. Même la Russie a fermé sa frontière avec la Biélorussie, signe que la situation dans ce pays inquiète et que la réaction des autorités inquiète. Donc oui, il y a une inquiétude à l'échelle de toute l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une inquiétude dans le pays même. Vous l'avez dit, la population a finalement plus réagi que ses dirigeants. Les gens ont eux-mêmes arrêté d'envoyer leurs enfants à l'école. Les entreprises ont d'elles-mêmes fait le maximum pour passer en télétravail. Donc oui, il y a cette méfiance-là, y compris à l'intérieur de la Biélorussie, parce que les tests sont, c'est une surprise, mais la Biélorussie, comme la Russie, teste, et on arrive à un taux de contamination assez important, qui est assez comparable à la Suède. La comparaison est valable parce que ce sont des pays qui ont des populations comparables, autour de 10 millions. On a un peu moins de 30 000 contaminés dans les deux pays, et sauf que, alors là, on en revient aux problématiques dont vous discutiez sur la Russie. Pour ces 30 000 cas en Suède, on est à 3 500 morts, en Russie, en Biélorussie, 150. Donc ouais. Cette petite transparence qu'on a entrevue a des limites.
Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci à vous, Benoît Vidkine, correspondant du Monde à Moscou. Je renvoie à votre très beau roman noir qui se déroule aux frontières de la Russie et de l'Ukraine dans cette guerre oubliée, le Donbass. Roman intitulé Donbass aux éditions Les Arènes, qui va vivre une deuxième sortie, on l'espère, post-confinement. Et pour ceux qui s'intéressent au Donbass, vous pouvez également le vivre en images avec le très beau documentaire d'Elena Volochine, Le choix d'Oleg. Vous pouvez le voir sur la plateforme Vimeo. Il n'y a pas que YouTube dans la vie. Vimeo, et vous allez sur la boîte de production Little Big Story. Lisez Donbass, allez voir Le choix d'Oleg. Merci Benoît Vidkine.
Merci François, à bientôt.
Merci Elena Volochine.
Merci François.
Et dans un instant, les carnets du monde s'ouvrent à ces petits pays d'Europe qui ont mieux réagi que les gros face à l'épidémie. Direction le Portugal, direction Chypre.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h19, les carnets du monde se poursuivent avec vous, François Claus. Direction à présent le Portugal et Chypre, deux des pays en Europe qui ont su le mieux résister à la pandémie.
Et ce sont des chiffres qui interrogent. Portugal, Covid-19, 28 000 cas, 1 200 décès. Grèce, plus impressionnant encore, Covid-19, 2 700 cas d'infection, 152 décès. Pourquoi ces chiffres du Portugal et de la Grèce? Tout simplement parce que ces deux pays étaient exsangues il y a tout juste 10 ans, terrassés par la crise financière et par les mesures drastiques d'économie qui touchèrent notamment le système de santé. Et pourtant, 10 ans plus tard, ces deux pays ont beaucoup mieux résisté que ceux qui semblaient mieux armés, comme le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et l'Italie. On pourrait citer également Malte, l'Islande ou Chypre, même si l'insularité a évidemment là été un facteur. Nous partirons à Chypre dans quelques instants, mais tout de suite, direction le Portugal, où nous allons retrouver à Lisbonne un fidèle auditeur des carnets du monde, François da Silva, bonjour.
Bonjour.
François da Silva, on a été frappé, vu de France, par ce sentiment, cette impression d'union nationale qu'il y a eu au Portugal lorsque l'épidémie est arrivée.
C'est plus qu'une union. Il faut d'abord situer le contexte. Le Portugal, le Parti Socialiste a une majorité relative. Ils avaient une alliance de gouvernement avec l'extrême gauche et le Parti Communiste jusqu'à la fin de l'année dernière, qu'ils n'ont plus. Mais la gauche est majoritaire, mais fait des alliances depuis les nouvelles législatives, fait des alliances. À noter que dès la déclaration d'état d'urgence qui s'est faite au Parlement, il y a eu une prise de position du président du PSD, qui a été au pouvoir pendant très très longtemps, notamment quand la Troïka a été présente, Rui Rio, et qui a très clairement dit qu'il mettait de côté les différences et qu'il était derrière le gouvernement, quoi qu'il arrive, pour que le Portugal puisse se sortir au mieux de la pandémie.
Quand je parlais, François da Silva, d'Union nationale, j'évoquais ce qu'a été également l'attitude finalement du peuple, de la rue au Portugal, où il y a eu le sentiment collectif qu'il fallait adhérer à un discours et finalement se serrer les coudes.
Il y a une très très forte adhésion aux politiques d'Antonio Costa. On est à plus de 70%. Quand on compare avec la France, c'est faramineux pour toutes les politiques qui ont été prises lors de la pandémie. Et après, il y a évidemment des caractéristiques typiquement portugaises, enfin de ces petits pays comme vous l'évoquiez pour la Grèce. Le premier étant évidemment un réseau extrêmement solidaire, à mon sens, familial et solidaire, que c'est un pays où il y a beaucoup de campagnes, donc c'est pour ça que, enfin, il y a ce qu'on appelle ici, il y a les grandes villes qui sont touchées, donc Lisbonne, mais curieusement moins Lisbonne que le nord Porto, où là où sont concentrées toutes les petites industries, ont été très touchées. Mais après, il y a ce qu'on appelle vulgairement ici l'intérieur, qui est ce qu'on appelle vulgairement également en France la province, où les trajets sont plus éloignés, où effectivement l'international, où les possibilités de contamination sont moindres. À signaler qu'il y a encore deux cas, l'Alentejo, qui est une grande région au sud de Lisbonne, qui compte toujours zéro mort, et Madeira, l'île de Madère, qui est l'archipel, puisque c'est plusieurs îles, également compte zéro mort. C'est vrai que c'est un pays qui a un genou à terre depuis longtemps, après le passage ravageur de la Troïka, le FMI, l'Europe, etc. Et donc c'est un pays qui était extrêmement endetté, qui était, et espérons-le qu'il sera encore sur la bonne voie pour que quelques temps encore, puisque il a ramené en 3 ans le chômage de au-delà de 15% à quasiment 6% l'année dernière, et le Portugal espérait passer quasiment au plein emploi à la fin de l'année. Et c'est également un pays sur la dette qui a récupéré énormément sa dette. Effectivement, tout ça va poser problème. Et donc, ce sentiment de solidarité, effectivement, a joué complètement à plein du fait de ces différentes crises que le pays a connues.
Grand merci à vous, François da Silva, de nous avoir accompagné dans vos réflexions autour de ce qu'on peut appeler le modèle portugais. Nous allons maintenant prendre la direction de Chypre, petite île méditerranéenne, plutôt épargnée, elle aussi, par le virus. Nous y retrouvons la correspondante d'Europe 1, Marie Berrière. Bonjour Marie.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors chez vous à Chypre, là aussi, comme au Portugal, il y a eu, on va ce qu'on peut appeler une bonne gestion de la pandémie.
Effectivement, il n'y a eu en tout que 910 cas à Chypre qui ont débouché sur 17 décès. Cela en fait l'un des pays européens les moins touchés par la pandémie. En fait, dès le début du mois de mars, toute personne entrant sur le sol chypriote était placée en isolation 15 jours dans un centre de quarantaine. 2 semaines plus tard, le gouvernement a carrément fermé les aéroports et il n'est depuis plus possible de rentrer ni de sortir de l'île. Et puis un confinement strict a été imposé avec une sortie par jour seulement et la crise s'est donc vite résorbée sur cette petite île, si bien que le déconfinement vient d'être amorcé il y a une semaine.
Oui, c'est une situation qu'on a retrouvée également du côté de Malte et dans une certaine mesure du côté de l'Islande. Mais derrière, Marie, cette success story sanitaire, comme dans d'autres pays européens, le coronavirus à Chypre a là des conséquences politiques, voire géopolitiques, qui peuvent être très lourdes.
Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que Chypre est en proie à un conflit gelé depuis près d'un demi-siècle. En 1974, la Turquie a envahi le nord de l'île qu'elle occupe encore aujourd'hui et où ont dû se réfugier les Chypriotes turcophones qui habitaient déjà sur l'île. Le sud, lui, est habité par ceux qu'on appelle les Chypriotes grecs. Les deux parties sont séparées par une zone tampon des Nations Unies, mais depuis 2003, on pouvait se déplacer d'un côté à l'autre de l'île en présentant une pièce d'identité à des checkpoints. Or, fin février, ces checkpoints ont été fermés. Une première depuis 17 ans. Et selon les autorités, c'était une mesure pour empêcher le virus de se propager. Mais cela a vraiment chamboulé la vie de nombreux habitants. Des familles ont été séparées, des employés ne peuvent plus se rendre sur leur lieu de travail. Et parfois, cela a engendré de véritables drames. Comme pour Deniz Birinci, une mère célibataire chypriote turque, qui habite donc au nord, et dont la fille de 2 ans est atteinte d'une grave maladie congénitale. Or, son médecin traitant, le seul médecin de l'île capable de la traiter, cette maladie, il se trouve au sud.
Je n'ai eu que quelques heures pour faire mes bagages et me précipiter avec ma fille de l'autre côté du checkpoint sans savoir quand nous pourrions rentrer chez nous. Aujourd'hui, cela fait 2 mois que je vis comme une gitane allant d'un logement temporaire à un autre. Ce qui me met le plus en colère, c'est que des politiciens utilisent cette opportunité pour espérer rendre la séparation permanente. Le virus, c'était leur prétexte. Nous ne sommes pas en Afghanistan ou au Yémen, nous sommes en Union européenne. Je ne devrais pas vivoter avec quelques affaires dans des sacs poubelles sans domicile fixe.
Alors on l'entend, Marie, c'est un témoignage très fort, poignant. Alors on se demande, mais pourquoi les autorités ont-elles donc fermé ces checkpoints ?
Bonne question. En fait, ce sont tout d'abord les autorités chypriotes grecques au sud de l'île qui ont décidé de fermer quelques points de passage fin février car elles craignaient que les visiteurs venus de Turquie et qui atterrissent toujours au nord ne viennent contaminer l'île. Et c'est vrai que la Turquie a été très touchée par le virus. Les chypriotes grecs ont donc voulu, pour ainsi dire, fermer les écoutilles. Sauf que les aéroports internationaux au sud n'ont pas été fermés en même temps que les checkpoints. Dans un premier temps, il était donc possible de se rendre à Chypre depuis des foyers du virus comme Paris, mais pas depuis le nord de l'île. Je vous propose d'écouter l'analyse de Ioannis Ioannou, journaliste au quotidien Politis et cofondateur du think tank Geopolitical Cyprus.
Comme toute chose, à Chypre, la question est très vite devenue politique. Depuis l'invasion turque de 1974, l'une des principales politiques du sud a été de vouloir exercer une pression politique et économique sur la Turquie. Certaines personnalités politiques pensent que la fermeture des checkpoints est un moyen de pression efficace, car cela perturbe le commerce, le tourisme, les mouvements de personnes. D'autant que, pour de nombreux chypriotes grecs, aller au nord, c'est soutenir l'économie d'une zone occupée par la Turquie. En fait, la peur était déjà présente avant le coronavirus. Elle a depuis toujours été cultivée par les deux parties. Cette crise sanitaire a seulement ravivé cette peur, ce manque de confiance et de coopération entre les deux communautés.
Et on signalera, Marie, aux dernières nouvelles, que le secrétaire général des Nations Unies a demandé instamment aux autorités des deux côtés de l'île de rouvrir les checkpoints, en espérant que les chypriotes pourront bientôt recommencer à voyager sur leur île et qu'on évitera de voir une crise politique se raviver sur l'île de Chypre à cause du virus. Grand merci à vous pour ce voyage à Chypre, Marie, et à bientôt dans les Carnets du Monde.
À bientôt.
Europe 1, les Carnets du Monde.
Avec vous, François Claus, il est 13h31, c'est l'heure, comme tous les dimanches, d'ouvrir notre page littéraire avec Nicolas Carreau.
Oui Marlène, et s'il est un monde qui nous ouvre sur le monde ou qui nous le fait un peu oublier peut-être en ce moment, c'est bien celui des livres. Bonjour Nicolas.
Bonjour François.
Alors nous continuons avec vous Nicolas de voyager parmi les grands classiques de la littérature mondiale et cette semaine vous avez choisi l'un des plus grands romans américains.
Un monument de la littérature américaine, même petit indice.
Ah ouais, trop facile. Tom Sawyer,
bien sûr. Il chante, quel talent. Effectivement, c'est le générique d'un dessin animé des années 80, une adaptation d'un roman de Mark Twain intitulé « Les aventures de Tom Sawyer ». C'est le roman américain par excellence. Mark Twain est considéré comme le père de la littérature américaine et donc de celle d'aujourd'hui.
En rappelant bien, Nicolas, que ce roman date de la fin du 19e.
1876, effectivement, publié pour la première fois aux États-Unis. Il a été republié à la Pléiade assez récemment et retraduit aussi aux éditions Tristram. Retraduit parce que c'est un langage très compliqué et très particulier à retranscrire en français, c'est très parlé. Et c'est donc l'histoire de Tom, un orphelin élevé par sa tante Polly dans une petite ville du Missouri sur les bords du fleuve Mississippi. On ne sait pas vraiment quel âge il a, mais disons 12-13 ans. Il est très attachant, très casse-cou aussi. Il y a Becky, dont il est amoureux. Et puis surtout, il y a les bêtises et l'aventure. Donc, il la cherche partout, cette aventure, avec son copain Huckleberry Finn.
Et bien sûr, il va la trouver, il va lui arriver ce qu'on peut appeler des bricoles.
Hein. Effectivement, quand on cherche le danger, il arrive, il va être témoin d'un meurtre quand même. Il va tomber sur un trésor et son pire cauchemar, c'est un certain Joe l'Indien, un bandit plutôt méchant. C'est un livre qui se lit à toute vitesse, ça ne s'arrête jamais. Il faut les suivre, Tom et Huck, deux gamins, mais de vrais gamins authentiques, insolents et libres. C'est pour ça d'ailleurs que le comédien Denis Podalydès est tellement admiratif du livre de Mark Twain.
J'étais subjugué par la grande force littéraire, ce côté Jean Renoir de Mark Twain. C'est comme dans les films de Jean Renoir, les enfants ont l'air de vrais enfants et pas de petits sages savants à qui on a vaguement appris à jouer. Et cette force insolente aussi, cette force de subversion.
La belle voix de Denis Podalydès, Nicolas, on sent que c'est un vrai fan de Tom Sawyer.
Oui, à cause aussi de l'écriture elle-même, l'écriture de Mark Twain, la manière qu'il a de rendre vivants les personnages.
Ce qu'il arrive à rendre très littéraire, c'est la langue parlée. Et il arrive à dépasser toute littérature. On a le sentiment, en entrant dans le livre de Tom Sawyer, d'être de plein pied dans la vie de cet enfant, presque au ras du sol avec lui. Il y a un moment où il se penche et il cherche comme ça, sous un lit, je crois, à attraper un objet. Et on retrouve cette sensation qu'on a enfant quand on se met au ras du parquet, par exemple, où l'œil capte des petits reliefs que ensuite plus grand, on oublie complètement de regarder le sol d'aussi près.
Et pour retrouver ces sensations, donc, je vous conseille la toute dernière traduction quand même de Tom Sawyer. C'est aux éditions Tristram. Et puis aussi l'autre roman de Mark Twain très important, Huckleberry Finn, encore plus brut et authentique. Ce sont deux romans qui se lisent très bien quand on est gamin, adolescent, mais qui peuvent se lire aussi très très bien adulte, avec une autre vision bien entendu.
À lire et à relire, Tom Sawyer et son copain Huck. Merci beaucoup Nicolas Caro.
Merci François.
Europe 1, les carnets du monde.
13h37, la suite des carnets du monde avec vous François Claus. À l'heure du déconfinement, quelles leçons retenir des pays qui ont su maîtriser l'épidémie ?
Direction la Corée du Sud. Alors que nous venons de vivre en France notre première semaine plutôt chaotique de déconfinement, les carnets du monde ont décidé de s'ouvrir à ces pays, Allemagne, Corée du Sud, qui ont géré au mieux la pandémie. La Corée du Sud fut tout simplement le premier pays touché après la Chine par l'épidémie. À l'arrivée, 11 000 cas certes, mais 247 décès seulement. Il est professeur de physique et de biologie à l'université d'Uslan. Il vient de rédiger un passionnant rapport de 60 pages sur la gestion coréenne de la crise. Ce rapport, vous le trouverez sur le site des Carnets du Monde. Bonjour François Amblard.
Bonjour monsieur.
Ce qui a été frappant, monsieur Amblard, en Corée, ça a été l'utilisation très précoce et très efficace des tests qui restent, selon vous, le pilier, j'allais dire, d'un déconfinement réussi.
C'est effectivement le moyen et le seul, quasiment, de détecter efficacement les gens qu'il convient, entre guillemets, de sortir de la circulation, d'isoler pour endiguer la propagation. Et en Corée, il a été utilisé à ce jour sur quasiment 700 000 personnes, 1,7-1,8% de ces 700 000 personnes sont positives.
Et cette volonté de tester répondait à un impératif médical auquel se sont soumis les politiques qui ont mis en place de manière très précoce une politique de fabrication et une politique, j'allais dire, pour mener les tests auprès de la population très efficace. Vous l'avez constaté sur place, François Amblard.
Ah, mais c'est extrêmement simple. Dès qu'en fait, la nouvelle d'un nouveau virus et la séquence du virus a été connue, et avant même qu'elle ne soit rendue publique par l'OMS, c'est-à-dire que quand certains laboratoires, enfin un laboratoire de Shanghai, a fait fuiter délibérément la séquence, les Coréens ont été au courant, et il y a une première société qui est l'une des principales sociétés test, qui est le 10 janvier, sans aucun délai, s'est mis tout de suite à l'ouvrage de concevoir un test. Le 16 janvier, le jour où l'OMS a donné toutes ces informations, il y a deux sociétés coréennes qui sont déjà à pied d'œuvre pour fabriquer les tests. Et le 4 février, donc 15 jours avant l'explosion véritable, numériquement en tout cas, de l'épidémie en Corée, 15 jours avant cette explosion, les tests sont déjà approuvés et prêts à être produits en masse.
Comment est-ce que vous expliquez, François Amblard, cette efficacité coréenne.
La santé, et on le sent bien ici dans les, à travers la façon dont se manifeste le système de santé, la façon dont la santé au travail est surveillée, je crois que ce pays ici a compris que si on voulait que le pays fonctionne économiquement bien, il fallait que les gens soient vraiment en bonne santé. Et donc le système de santé coréen s'est développé au-delà d'une autre, en termes d'équipement, en termes de nombre de lits, je vous donne un exemple. Le nombre de scanners par habitant, il est 40% au-dessus de la moyenne de l'OCDE, et la France est 40% en dessous. Juste pour vous donner un exemple, mais il y a d'autres exemples comme ça quand on compare les chiffres. Donc, la santé est un bien précieux. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que en 2015, à l'occasion de l'épidémie de MERS, qui, il faut le rappeler ici, entre guillemets, n'a tué que 35 personnes, cette épidémie, en fait, elle s'est manifestée d'une façon qui a fait peur à tout le monde, c'est qu'elle a explosé dans un hôpital. C'est-à-dire que tous les gens qui sont tombés malades et qui sont morts l'ont été parce qu'ils sont allés à l'hôpital. Et ça a fait très peur aux Coréens, et ils ont été un peu pris par surprise, et leur système de santé a été attaqué. Et donc ils ont mis sur pied une loi, et c'est cette loi-là dans laquelle toute la réponse qui a été mise en œuvre, c'est-à-dire que tout était prêt dans les cartons, les plans avaient été écrits, préécrits, ils avaient été entretenus à travers des espèces d'exercices sanitaires comme on fait des exercices militaires, et donc il a suffi d'activer les plans qui étaient déjà écrits.
Vous diriez qu'il y avait une vraie conscience du danger potentiel qu'on n'a peut-être pas eu par une forme d'arrogance, nous, en Occident.
Ben, en fait, ce qui est très, très étonnant, c'est qu'on a l'impression que l'information ne passe pas. C'est-à-dire que la connaissance des événements de 2015 ici et à Taïwan n'a pas du tout percolé. Elle n'est pas arrivée jusqu'à Paris. Mais on peut aussi souligner quelque chose qui est très, très frappant. C'est que la France n'a pas daigné participer à la mission jointe de l'OMS en Chine, qui a été l'occasion pour un certain nombre de pays d'envoyer des représentants pour voir ce qui se passait exactement en Chine. Donc il y avait Canadiens, Américains, Allemands, Japonais, Coréens, Nigérians, enfin il y avait un certain nombre de pays et la France n'y était pas.
Merci beaucoup François Amblard, physicien, biologiste, professeur à l'Université de Sciences et de Technologie à Ulsan en Corée du Sud, de nous avoir accompagnés dans les Carnets du Monde avec vos réflexions pertinente, et je renvoie à la lecture de votre rapport d'une soixantaine de pages qui modélise d'une certaine manière ce qu'a été l'exemplarité coréenne dans la gestion de cette pandémie. Merci à vous François Amblard.
Merci beaucoup.
Et il est un autre pays qui a parfaitement suggéré la situation de l'épidémie, nos voisins allemands, qui entrent déjà dans leur troisième semaine de déconfinement. Nous allons donc prendre la direction de Berlin. L'alpha et l'oméga du déconfinement made in Deutschland, c'est tout simplement les tests. Reportage à Berlin, signé Hélène Kohl.
Depuis deux mois maintenant, la salle d'attente du docteur Ulrike Leimer-Liebke dispose d'une antichambre sur le parking devant le cabinet de cette généraliste. Passage obligatoire sous un petit chapiteau de fortune où elle pose les premières questions aux patients.
Ils attendent dehors et s'ils n'ont pas de signe de maladie, ils peuvent entrer dans le cabinet normalement. Mais si je soupçonne un cas de Covid, ils doivent aller avec moi dans la tente de test où on a aménagé un espace protégé.
Comme cet enseignant qui a été en contact avec une famille touchée par le virus, il arrive avec la convocation des services sanitaires de son arrondissement.
C'est ça, ils m'ont écrit que je devais me présenter ici. Je n'ai pas de symptômes, non, mais c'est toujours rassurant de vérifier.
Il reçoit le kit pour se faire lui-même le prélèvement dans le fond de la gorge. Ulrike Leimer-Liebke, masqué, ganté, sanglé dans une blouse, dirige les opérations à distance.
Bien profond, encore. Et vous raclez bien. Sinon, je ne pourrais pas envoyer l'échantillon au labo. Et ça serait vraiment bête. Hein.
Elle a été l'une des premières généralistes berlinoises à proposer ce service à ses patients. En Allemagne, les médecins traitants ont l'habitude de faire eux-mêmes les gestes simples, comme les prises de sang ou les analyses d'urine. Cela raccourcit les procédures et les délais de dépistage, affirme la généraliste.
Ce que je trouve très, très très important, c'est que nous avons un excellent maillage de cabinets partout sur le territoire et même à la campagne. Nous pouvons prendre beaucoup en charge. Faire des tests, ce n'est pas toujours très passionnant, mais cela permet d'en savoir plus sur le comportement du virus et apprendre comment le combattre.
Toutes les personnes qui présentent des symptômes ou qui ont été en contact avec un malade ont droit à un test gratuit. Une loi a été passée en urgence fin février pour mettre en place le tiers payant systématique.
Nous avons pris conscience très tôt de ce qui se passait et nous avons réagi vite. Normalement, j'aime bien m'énerver contre la politique, mais là je crois que notre gouvernement a bien travaillé.
Un autre patient attend dans le fond du cabinet, il est négatif, mais il se peut qu'il soit immunisé après une exposition au virus cet hiver.
J'ai fait une croisière au large de l'Australie et après coup, on a appris que près de 100 passagers avaient été testés positifs au virus sur le bateau.
Ulrike Leimer-Liptke veut en avoir le cœur net.
Je lui fais une prise de sang pour vérifier ses anticorps. Hop, voilà. Oui, ce n'est pas une compétition mondiale, mais nous espérons avoir pris une certaine avance dans la lutte contre le virus. Et peut-être que d'autres pays pourront profiter de nos connaissances.
Depuis deux jours, l'Allemagne teste aussi les personnes qui se présentent sans aucune raison médicale. L'idée est d'avoir une photographie la plus précise possible de la répartition du virus sur le territoire, jour après jour, quitte à reconfiner très localement certaines entreprises, par exemple. Dans Berlin, plusieurs centres de tests en drive ont vu le jour. C'est le cas sur le parking de ce grand hôtel encore fermé, mais qui a mis ses locaux à disposition. On se fait dépister sans descendre de sa voiture.
Il y a des institutions qui envoient en paquet l'ensemble de leur personnel pour le faire tester. Et puis on a aussi des personnes qui viennent d'elles-mêmes pour un prélèvement. Il suffit de s'inscrire avant et c'est gratuit.
Plusieurs grandes entreprises ou des ministères ont aussi installé ce genre de centre de test dans leurs locaux pour inciter les employés à se faire dépister régulièrement. Comme c'est déjà le cas pour les soignants, les pompiers ou les policiers. Et depuis ce week-end, c'est aussi le lot des footballeurs de la Bundesliga. Au total, d'ici le mois de juin, l'Allemagne compte ainsi pratiquer 200 000 tests par jour.
Merci Hélène Kohl. Dans un instant, direction le Pérou. Car oui, le virus a été suffisamment puissant pour bloquer les routes de la drogue.
Les carnets du monde.
Les carnets du monde se poursuivent sur Europe 1 avec vous François Claus. Et maintenant à 13h49, nous allons emprunter la route de la drogue.
Un petit virus suffisamment puissant pour paralyser le trafic international de drogue. Peut-être pas, mais c'est l'une des conséquences inattendues de la pandémie. Et nous allons tout de suite prendre la direction d'un des pays producteurs, le Pérou, avec la correspondante d'Europe 1 à Lima, Amanda Chaparro. Bonjour Amanda.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors le Pérou, je disais, est un des gros pays producteurs de coca. C'est d'abord une activité économique tout à fait légale qui fait vivre plusieurs dizaines de milliers de familles. La feuille de coca est utilisée pour un usage tel que le masticage, les infusions. Avec la crise sanitaire, son prix a baissé de près de 46% en moyenne. Et puis je l'évoquais, conséquence directe, le trafic de cocaïne est lui aussi paralysé. Alors pour commencer Amanda, dites-nous bien ce qui se joue entre le marché légal de la coca et le marché de la drogue. La coca, c'est une grande tradition, une culture très vive au Pérou.
Oui, en effet, le Pérou est le deuxième producteur de coca après la Colombie. La feuille est cultivée depuis plusieurs millénaires. Elle est considérée comme sacrée par les populations andines. Plus de 3,5 millions de Péruviens en consomment au quotidien. On s'en sert, vous l'avez dit, pour concocter toutes sortes d'infusions. Mais l'usage traditionnel ici, c'est le chacchéo, le masticage, car ses propriétés curatives et stimulantes sont bien connues. Les populations andines ont l'habitude de la consommer pour réduire la fatigue, la faim ou encore diminuer les maux de tête liés à l'altitude. L'industrie pharmaceutique aussi s'en sert pour l'élaboration de médicaments ou de produits de beauté. Et enfin, autre usage important, la coca est utilisée pour toutes sortes de rites religieux, ce qui en fait une denrée précieuse, une économie qui représente ici plusieurs millions d'euros.
Évidemment, Amanda, les producteurs sont touchés de plein fouet par cet état d'urgence qui a été décrété d'ailleurs au Pérou en même temps que chez nous le 15 mars dernier avec un confinement général.
Oui, le secteur est particulièrement touché car habituellement la coca voyage. Elle est produite dans les régions tempérées des basses terres et se consomme principalement dans les hautes terres, dans les zones d'altitude. Tout cela nécessite évidemment des transports. Or, l'état d'urgence dans lequel est plongé le pays limite drastiquement ces transports. Résultat, les petits producteurs souffrent, certains ont arrêté de récolter. On écoute tout de suite le président de la Fédération des producteurs de coca de la région de la Convention dans le sud-est du pays.
Quand le président de la République a décrété l'immobilisation sociale obligatoire, il n'a plus été possible de rassembler la production de coca et beaucoup de nos frères paysans producteurs ont perdu leur récolte. Parce que la coca ne se garde pas plus d'une semaine. C'est un produit fragile, périssable une fois récolté et séché, il perd sa qualité. Ensuite, nous avons eu un permis spécial pour se déplacer et vendre la coca. Mais le problème, c'est le manque de transport. Le producteur ne peut pas transporter sa marchandise jusqu'à un point de vente. Imaginez porter 5 arrobes à pied, c'est-à-dire 125 kilos de coca sur 2 ou 5 kilomètres durant une ou deux heures, c'est compliqué.
Oui, voilà, les petits producteurs comme Percy Perales sont donc contraints d'attendre la fin du confinement pour pouvoir vendre à nouveau. Certains ont perdu tous leurs revenus. Ils espèrent pouvoir toucher l'allocation rurale promise par le gouvernement péruvien aux travailleurs agricoles journaliers ou aux propriétaires de petites parcelles agricoles. Il s'agit d'une aide d'environ 200 euros, moins que le salaire minimum de 260 euros.
Alors on le voit bien, crise sociale d'un côté, et puis je l'évoquais tout à l'heure, il y a évidemment les conséquences, Amanda, sur le marché illégal, celui de la cocaïne.
Oui, en effet, 90% du trafic serait à l'arrêt selon les spécialistes des réseaux de la drogue. Seules quelques poches d'activité persistent aux frontières du Brésil et de la Bolivie. Nous avons joint par téléphone Pedro Yaranga, analyste de sécurité et des réseaux criminels. Il nous explique à quel point l'épidémie de Covid a porté un coup d'arrêt brutal au narcotrafic.
Depuis le début de la quarantaine au Pérou, la paralysie est quasiment totale. Par exemple, dans la zone où le trafic est vraiment le plus important, la région du Vraem, d'où provient 75% de la drogue du pays, eh bien dans le Vraem, l'an dernier, il y avait plus de 100 vols clandestins. Et depuis le début de la quarantaine, il n'y en a plus aucun. Idem pour le trafic via les sentiers, tout est à l'arrêt. Personne ne vend et personne n'achète. Ceux qui ont de bonnes réserves préfèrent les garder en attendant que les choses aillent mieux.
Et en effet, le calcul est vite fait pour les trafiquants. Ils préfèrent attendre plutôt que de vendre à bas prix. Car le prix de la feuille de coca au Pérou a baissé de 46% en moyenne entre janvier et avril. C'est ce que nous révèle un récent rapport de la Commission nationale pour le développement et une vie sans drogue, la DEVIDA. Idem pour le prix de la cocaïne. Il a chuté de 25% en moyenne et jusqu'à 58% dans la première région de production, le Vraem, dans le centre du pays, considéré vraiment comme le cœur du narcotrafic. Là-bas, son prix au kilo est passé de 1580 euros à moins de 685 euros. Un sacré manque à gagner pour les trafiquants, on l'a compris, donc, qui dans ce contexte gardent leur stock pour la reprise du trafic. Reste à savoir si le commerce de drogue va être affecté durablement au Pérou ou si la levée de l'état d'urgence et la fin du confinement fin mai vont entraîner une reprise immédiate de ces juteux trafics.
Grand merci à vous, Amanda Chaparro. Pour les carnets du monde, à Lima.
Europe 1, les carnets du monde.
On écoute le monde changer sur Europe 1, la suite et fin des carnets avec vous, François Claus. Et comme chaque dimanche, eh bien, on va terminer sur une touche philosophique avec Joseph Chovanec. Il est docteur en philosophie, autiste Asperger et infatigable voyageur.
Et pour ce voyage hebdomadaire en autistan, bonjour Joseph.
Bonjour François, bonjour à tout le monde.
Et dans ce monde confiné du télétravail que vous vivez comme beaucoup depuis un peu plus de deux mois maintenant en Belgique, là où beaucoup ressentent une forme de déshumanisation, vous avez, vous, Joseph, trouvé une nouvelle manière finalement de découvrir vos interlocuteurs.
Oui, des interlocuteurs que j'avais connus comme monsieur le directeur ou madame la présidente dans un bureau très formel. Et là, en télétravail, eh bien, au cours de la réunion, la porte s'ouvre et un enfant rentre en criant. Vous voyez tout de suite les gens autrement et vous avez l'impression de vous faire des amis.
Alors, ça corrobore, il faut bien le dire, Joseph, ce qu'on ressent parfois lorsqu'on voyage seul dans un autre pays ou une autre civilisation.
Mais oui, dans beaucoup de pays, la première chose quand on rencontre quelqu'un, c'est de lui poser des questions sur sa famille. Et ce n'est pas spécifique à un pays donné. En Iran, Oman et tant d'autres pays orientaux, les questions viennent toujours dans le même ordre. Nom, âge, statut familial, est-ce que les parents sont toujours en vie, etc. Alors certes, pendant mon cas personnel, les gens sont un peu troublés parce que je n'ai pas de famille. Mais les réactions restent positives. Le plus souvent, on veut me trouver une famille d'accueil au pays. Il y a quelque chose de touchant qu'un inconnu vous cherche un cadre familial, le plus sérieusement du monde, bien sûr. J'ai quasiment été tenté d'accepter plus d'une fois, pas tant pour avoir une famille, mais pour l'expérience culturelle.
Car il faut bien l'admettre, Joseph, cette expérience culturelle d'entretien du lien familial, bien nous, on l'a un petit peu oublié chez nous et on se prive d'une grande richesse, finalement.
Mais oui, dans beaucoup de pays, la chose la plus importante, ce sont les liens au sein du groupe et entre les groupes. Et le sujet de discussion le plus passionnant pour les gens, cela constitue précisément par exemple les interactions tribales, que ce soit en Asie centrale ou Baloutchistan. Les séries américaines n'y auraient aucune chance. Ce n'est pas qu'on ne les capte pas sur un plan technique, c'est qu'il y a beaucoup mieux et beaucoup plus riche. Et je crois que cet intérêt incessant porté aux interactions familiales développe le cerveau, l'aptitude à imaginer des scénarios culturels impliquant beaucoup de gens. Dans les films occidentaux, on ne peut pas dépasser 3 ou 4 personnages principaux, le téléspectateur décrocherait. Par contre, dans les poèmes épiques fondateurs des cultures orientales, eh bien, il y a des centaines de personnages qui interagissent. Illisible et déprimant pour les rares occidentaux qui cherchent à les lire, mais c'est passionnant pour les locaux.
Et dans ces nombreux voyages que vous avez effectués, Joseph, il y a une expérience qui ressort, c'est ce que vous avez vécu en Iran.
Mais oui, je n'oublierai jamais ce soir que j'avais passé à Téhéran lorsque j'avais un petit job à la fac là-bas. J'avais dîné chez une dame d'un certain âge que je connaissais. Elle m'avait parlé de sa mère à elle décédée. Et elle avait eu envers la défunte une formule élogieuse qui me donne à réfléchir jusqu'à ce jour. Sa mère connaissait tous les personnages du Shahnameh, le poème fondateur de la culture iranienne. Et sans surprise, dans les innombrables formules de politesse qu'il faut connaître pour vivre en Iran, tout ou presque tourne autour de la présence de l'autre, la douleur de l'absence, pour n'en retenir qu'une. Quand on n'en peut plus d'attendre que les proches soient réunis à l'issue d'un voyage, par exemple, on dit « Cheshme shomo roshan »,« Puisse vos yeux s'illuminer ». C'est assurément un clin d'œil du destin que cette journée mondiale des télécommunications, eh bien le télétravail dû au Covid nous refasse goûter aux saveurs d'un lointain passé.
Et que nos oreilles puissent toujours s'illuminer de vos propos. Merci beaucoup, Joseph.
Merci, à très bientôt.
Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde. François Claus.
Un petit virus suffisamment puissant pour paralyser le trafic international de drogue. Peut-être pas, mais c'est l'une des conséquences inattendues de la pandémie. Et nous allons tout de suite prendre la direction d'un des pays producteurs, le Pérou, avec la correspondante d'Europe 1 à Lima, Amanda Chaparro. Bonjour Amanda.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors le Pérou, je disais, est un des gros pays producteurs de coca. C'est d'abord une activité économique tout à fait légale qui fait vivre plusieurs dizaines de milliers de familles. La feuille de coca est utilisée pour un usage tel que le masticage, les infusions. Avec la crise sanitaire, son prix a baissé de près de 46% en moyenne. Et puis je l'évoquais, conséquence directe, le trafic de cocaïne est lui aussi paralysé. Alors pour commencer, Amanda, dites-nous bien ce qui se joue entre le marché légal de la coca et le marché de la drogue. La coca, c'est une grande tradition, une culture très vive au Pérou.
Oui, en effet, le Pérou est le deuxième producteur de coca après la Colombie. La feuille est cultivée depuis plusieurs millénaires. Elle est considérée comme sacrée par les populations andines. Plus de 3,5 millions de Péruviens en consomment au quotidien. On s'en sert, vous l'avez dit, pour concocter toutes sortes d'infusions. Mais l'usage traditionnel ici, c'est le chacheo, le masticage, car ses propriétés curatives et stimulantes sont
bien connue. Les populations andines ont l'habitude de la consommer pour réduire la fatigue, la faim ou encore diminuer les maux de tête liés à l'altitude. L'industrie pharmaceutique aussi s'en sert pour l'élaboration de médicaments ou de produits de beauté. Et enfin, autre usage important, la coca est utilisée pour toutes sortes de rites religieux, ce qui en fait une denrée précieuse, une économie qui représente ici plusieurs millions d'euros.
Évidemment, Amanda, les producteurs sont touchés de plein fouet par cet état d'urgence qui a été décrété d'ailleurs au Pérou en même temps que chez nous le 15 mars dernier avec un confinement général.
Oui, le secteur est particulièrement touché car habituellement, la coca voyage. Elle est produite dans les régions tempérées des basses terres et se consomme principalement dans les hautes terres, dans les zones d'altitude. Tout cela nécessite évidemment des transports. Or, l'état d'urgence dans lequel est plongé le pays limite drastiquement ces transports. Résultat, les petits producteurs souffrent, certains ont arrêté de récolter. On écoute tout de suite le président de la Fédération des producteurs de coca de la région de la Convention dans le sud-est du pays.
Quand le président de la République a décrété l'immobilisation sociale obligatoire, il n'a plus été possible de rassembler la production de coca et beaucoup de nos frères paysans producteurs ont perdu leur récolte. Parce que la coca ne se garde pas plus d'une semaine. C'est un produit fragile, périssable une fois récolté et séché, il perd sa qualité. Ensuite, nous avons eu un permis spécial pour se déplacer et vendre la coca. Mais le problème, c'est le manque de transport. Le producteur ne peut pas transporter sa marchandise jusqu'à un point de vente. Imaginez porter 5 arrobes à pied, c'est-à-dire 125 kilos de coca sur 2 ou 5 kilomètres durant une ou deux heures, c'est compliqué.
Oui, voilà, les petits producteurs comme Percy Perales sont donc contraints d'attendre la fin du confinement pour pouvoir vendre à nouveau. Certains ont perdu tous leurs revenus. Ils espèrent pouvoir toucher l'allocation rurale promise par le gouvernement péruvien aux travailleurs agricoles journaliers ou aux propriétaires de petites parcelles agricoles. Il s'agit d'une aide d'environ 200 euros, moins que le salaire minimum de 260 euros.
Alors on le voit bien, crise sociale d'un côté, et puis je l'évoquais tout à l'heure, il y a évidemment les conséquences, Amanda, sur le marché illégal, celui de la cocaïne.
Oui, en effet, 90% du trafic serait à l'arrêt selon les spécialistes des réseaux de la drogue. Seules quelques poches d'activité persistent aux frontières du Brésil et de la Bolivie. Nous avons joint par téléphone Pedro Yaranga, analyste de sécurité et des réseaux criminels. Il nous explique à quel point l'épidémie de Covid a porté un coup d'arrêt brutal au narcotrafic.
Depuis le début de la quarantaine au Pérou, la paralysie est quasiment totale. Par exemple, dans la zone où le trafic est vraiment le plus important, la région du Vraem, d'où provient 75% de la drogue du pays, eh bien dans le Vraem, l'an dernier, il y avait plus de 100 vols clandestins. Et depuis le début de la quarantaine, il n'y en a plus aucun. Idem pour le trafic via les sentiers, tout est à l'arrêt. Personne ne vend et personne n'achète. Ceux qui ont de bonnes réserves préfèrent les garder en attendant que les choses aillent mieux.
Et en effet, le calcul est vite fait pour les trafiquants. Ils préfèrent attendre plutôt que de vendre à bas prix, car le prix de la feuille de coca au Pérou a baissé de 46% en moyenne entre janvier et avril. C'est ce que nous révèle un récent rapport de la Commission nationale pour le développement et une vie sans drogue, la DEVIDA. Idem pour le prix de la cocaïne, il a chuté de 25% en moyenne et jusqu'à 58% dans la première région de production, le Vraem, dans le centre du pays, considéré vraiment comme le cœur du narcotrafic. Là-bas, son prix au kilo est passé de 1580 euros à moins de 685 euros. Un sacré manque à gagner pour les trafiquants, on l'a compris, donc, qui dans ce contexte gardent leur stock pour la reprise du trafic. Reste à savoir si le commerce de drogue va être affecté durablement au Pérou ou si la levée de l'état d'urgence et la fin du confinement fin mai vont entraîner une reprise immédiate de ces juteux trafics.
Et c'est une question, Amanda, que nous allons poser dans un instant à notre invité. Il nous a rejoint dans les carnets du Monde. Merci beaucoup, Amanda Chaparro.
Merci.
Il est l'un des grands spécialistes en France des questions de drogue et de trafic, documentariste, enquêteur, journaliste. On lui doit Parrain des cités à la manufacture des livres. Un très beau doc également visible sur la plateforme Canal+, au royaume du shit, sur les filières de la drogue entre le Maroc et l'Europe. Bonjour Jérôme Pierrat.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans les Carnets du Monde. On vient d'entendre à Lima Amanda Chaparro. Jérôme, est-ce que ça veut dire qu'on vient de vivre un monde sans drogue depuis 2 mois?
Non, on n'a pas vécu un monde sans consommation de drogue. On a vécu un monde avec un trafic un peu au ralenti, mais le monde n'a pas tourné sans la drogue, non, malheureusement.
Alors, ça veut dire que les filières se sont réorganisées. Amanda nous disait que les producteurs de cocaïne au Pérou, les narcotrafiquants, préféraient garder leur stock face à l'effondrement des prix et à la difficulté d'écouler la drogue. Est-ce à dire que les trafiquants se sont organisés avec de nouvelles routes pour contourner finalement le confinement et l'épidémie?
Alors effectivement, ça a redessiné un peu la géographie du trafic à l'échelle planétaire. Donc ça dépend des produits. En fait, les trafiquants de cocaïne ont réussi quand même à écouler leur stock via ces conteneurs parce que ils utilisent historiquement cette voie maritime. Il y a eu d'ailleurs des saisies à réaliser, même en France, au port de Fos-sur-Mer au début du confinement, en Espagne, au Portugal, un peu partout. Donc ils tournaient au ralenti certes, mais ils tournaient. Il y a d'autres drogues qui ont été plus impactées, notamment toutes les drogues synthétiques, notamment la méthamphétamine, ce genre de drogues de synthèse, produites notamment en Amérique du Sud, voire en Asie, et qui sont normalement transportées massivement par des mules, hein, c'est-à-dire des passagers qui dissimulent la marchandise sur eux. Et là, faute de transport aérien, mais évidemment, tout ce gros trafic-là, en revanche, lui, s'est arrêté. Ouais. Donc, en fait, en fonction des produits et des routes et des vecteurs de transport, et ben, évidemment, ça a évidemment bouleversé pas mal de choses. Ouais.
Est-ce que du côté des policiers, de la lutte anti-drogue, on s'est organisé face à cette nouvelle donne?
Côté policiers, on s'est plutôt mis aussi en sommeil. C'est-à-dire qu'au début du confinement, les policiers qui travaillaient sur des gros réseaux ont vu ces messieurs arrêter les activités assez rapidement, hein, bah, faute de pouvoir transporter librement la marchandise dans le pays, mais aussi de manière transfrontalière. Donc toutes les grosses équipes ont mis ça en sommeil. Les véhicules qui avaient été balisés pour parler concrètement, c'est-à-dire que les policiers les surveillaient pour voir s'ils allaient bouger, etc., etc. On a vu tout ça s'arrêter, et donc les policiers qui étaient eux-mêmes confinés et ne travaillaient qu'à 20% de leur effectif en tournant, notamment dans les services de stup, et bah du coup se sont mis au diapason des trafiquants et tout le monde a été un peu en sommeil.
Alors sauf peut-être Jérôme Pira, sauf peut-être les consommateurs. Et comment est-ce que les consommateurs ont géré cette période?
Ce qui s'est mis un peu en sommeil, c'est ce grand trafic international. Au niveau local, ça a continué de consommer et de vendre. Qui a été impacté? Ce qui a été impacté, c'était les réseaux qui tiennent des terrains de vente, c'est-à-dire notamment dans les quartiers sensibles, dans les cités, là où géographiquement vous vous déplacez et il y a un point de vente comme un magasin à l'air libre, et puis vous venez acheter ce dont vous avez besoin. Ça, évidemment, c'était compliqué en fonction des déplacements, du confinement, etc. En revanche, ce qui s'est développé, c'est ce qui marchait déjà depuis un moment, c'était la grande tendance, on appelle ça l'ubérisation du trafic, c'est-à-dire le trafic via les réseaux sociaux, via les applications Snapchat, etc., où les dealers font en plus de la pub gratos dessus et se déplacent pour vous livrer à la manière d'un Uber Eats ou d'un VTC, etc. Et ces gens-là avaient le droit, enfin, ont réussi à contourner dans des petits périmètres autour de chez eux, le confinement. Donc ce trafic de base, il a continué sur la base des stocks qui avaient été préétablis au confinement, mais qui étaient juste nécessaires pour les 2 mois qu'on vient de passer.
Comment est-ce que, Jérôme Pira, vous voyez cette période de déconfinement qui va s'ouvrir en matière de trafic international de drogue?
On est tous un peu attentifs, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'il y a des choses qui vont changer. Alors il faut bien comprendre que le trafiquant de drogue, il n'a pas subi, même s'il suit les aléas de l'économie, il n'a pas suivi les mêmes que l'économie légale, parce que lui n'a pas de charges, n'a pas de loyer, n'a pas de frais fixes. Donc il avait uniquement un manque à gagner. Alors les grosses équipes qui avaient assez d'argent, assez de stock et qui ont des bons contacts à l'international et des réseaux solides pour faire voyager ça par bateau, par exemple, et ça demande une certaine logistique, un certain professionnalisme, ceux-là, ils vont survivre. Les petits réseaux qui vivent du transport de shit dans une voiture et où vont mettre 50 kilos, 100 kilos qui vont remonter d'Espagne comme ça, un espèce de flux tendu, cela, ça va être plus compliqué dans les mois à venir. Voilà. Après, au niveau international, oui, les observateurs regardent attentivement ce qui va se passer dans certains pays parce qu'en raison des situations économiques, les budgets de la police vont sans doute baisser dans certains pays, donc la lutte va être moins efficace, etc. On l'a constaté là en Bolivie pendant le confinement, hein, la police a pas réussi, contrairement à d'autres pays, à endiguer la culture de la feuille de coca. La Bolivie, je rappelle que c'est un des 3 pays producteurs avec la Colombie et le Pérou des feuilles de coca, la matière première de la cocaïne. Et ces gens-là, donc la police a pas réussi à se déployer. La production de feuilles de coca, par exemple, a explosé en Bolivie pendant le confinement. Voilà, donc vous voyez, selon les sites, selon les pays, selon les produits, tout va effectivement changer. Ce qui ne changera pas, c'est que le trafic va continuer, la consommation avec.
Merci beaucoup Jérôme Pierra de nous avoir éclairé. Et on voit finalement que ce trafic illégal de la drogue emprunte finalement les vecteurs légaux à sa manière du commerce international, qu'il a été lui aussi impacté et que ce trafic, vous le disiez, devrait reprendre, avec peut-être du côté des policiers la possibilité, Jérôme Pierra, de faire des bons coups.
Ah bah là oui, parce que là tout le monde va effectivement se reprécipiter pour transporter ce qu'il a à vendre ou à acheter, ou ce qu'il vient d'acheter, et là effectivement les policiers vont être aux aguets, parce que quand tout le monde va se remettre en piste, il va y avoir du monde dans le circuit. Ouais.
Je renvoie Jérôme Pierra à votre livre, à la manufacture des livres, Parrain des cités, et à ce documentaire passionnant, Au royaume du shit, documentaire que vous pouvez revoir sur la plateforme Canal+. Merci à vous.
Merci beaucoup.
On vous retrouve dimanche prochain en compagnie de Sophie Larmoyer qui sera de retour. Remerciements appuyés à Florence Gimalac qui m'a aidé à préparer cette émission et à Marc Fréjean qui l'a mise en onde. Dans un instant, c'est un autre grand voyage qui va débuter, celui des livres sur Europe 1. La voix est libre pour vous, Nicolas Carreau.